Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et je vous invite à prendre vos Bibles afin de lire les textes de la prédication de ce matin. Tout d'abord, le texte principal de la prédication, en Jacques, chapitre 5, les versets 19 et 20. Jacques 5, versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ensuite, nous basculons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, des versets 10 à 17. Matthieu 18, des versets 10 à 17. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges, dans les cieux, voient continuellement la face de mon Père, qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager.
100 ballons, pas de but possible au foot. Et sans le Saint-Esprit, pas de compréhension possible dans la Bible. Donc prions pour le match de notre cœur de ce matin, qu'il soit rempli de buts à la gloire de Dieu. Nous comptons sur l'Esprit de Dieu. Et nous nous replongeons dans cette épître de Jacques, cette lettre de Jacques, que nous avons commencé il y a quelques temps, qui nous a accompagnés. Aujourd'hui, on va dire au revoir à quelqu'un qui nous a accompagnés un certain temps, mais qu'on continue à lire aussi pour nous, évidemment, mais dans l'Église. Eh bien, nous avons pu lire cette lettre écrite par le demi-frère de Jésus, qui avait la même maman. Et Jacques a pu voir Jésus grandir, son frère aîné, mais ce n'est pas pendant la vie de Jésus que, en fait, Jacques a cru en lui. Pourtant, il est à côté de celui qui, même enfant, n'a jamais commis de péché. Mais il a été touché par la grâce à la résurrection de Jésus. C'est là qu'il l'a reconnu comme son sauveur. Et Jacques est devenu un pilier de l'Église de Jérusalem. Et il avait à cœur, en fait, que tous les croyants vivent une foi authentique, une foi vivante, une foi conséquente, une foi qui sauve et donc qui agit. Donc Jacques avait cela à cœur, que les croyants vivent une foi authentique, une foi vivante, une foi conséquente, une foi qui sauve et donc qui agit. C'est la raison pour laquelle il a écrit cette lettre que nous avons parcourue ensemble pour chercher à la comprendre, tirer des enseignements. Vous vous rappelez, il a commencé Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. On avait un peu vu tout ce que cela signifiait dès ce moment-là. Et les deux derniers versets sont quelque part comme un cri du cœur et en même temps qui engage en fait tous ceux qui ont une foi authentique et donne de l'espoir pour toute autre personne qui ne sont pas encore dans la foi ou qui se détournent de ce qu'ils ont entendu. Donc Jacques continue avec des associations d'idées. On a fait toute l'épître, donc on commence à comprendre que Jacques, lui, il va par association d'idées. Il dit quelque chose, ça lui fait penser à autre chose, etc. Puis il continue ainsi. Et c'est la même chose dans ce texte ici. On avait vu la dernière fois, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il prie en chantant des cantiques. Et si quelqu'un est malade, qu'il prie en demandant aux anciens de prier. Enfin, c'est qu'il prie, hein, cette notion qu'il prie. Et il continue ici au verset 19 en ayant de nouveau le « si quelqu'un ». Si quelqu'un s'est égaré, on pourrait dire que le conseil est le même. Qu'il prie. Bon, lui, il est en train de s'égarer. Que les autres prient. Et qu'ils agissent, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On pourrait dire qu'il prie, qu'il se repente et qu'il ait la foi en Christ, c'est vrai. Mais même si ça est sous-entendu, Jacques souligne ici le rôle important de celui qui ramène, donc des autres qui sont autour. Et nous allons réfléchir ce matin à trois éléments, simplement en suivant le texte. Le premier, c'est l'égarement loin de la foi, première partie du verset 19. Ensuite, ramener à la vérité dans la foi, verset 19 et 20, début. Et puis ensuite, sauver et couvrir par la foi. Voilà les trois étapes que nous allons faire ensemble ce matin. Donc, la première étape, si vous avez vos Bibles ouvertes, c'est très bien. Donc, au chapitre 5, verset 19, première partie. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité. » Voilà, ça c'est la première partie qu'on va un petit peu méditer. Donc là, on voit Jacques qui réfléchit à l'Église. Jacques qui a un cœur de berger. Il veut prendre soin de toute personne qui sont dans l'Église, hein, qui se disent frères dans l'Église. Il est un berger et il veut suivre l'exemple de son divin berger qui n'a pas hésité à laisser tout le troupeau pour aller chercher celle qui était perdue. Le divin berger n'a pas hésité à laisser tout le troupeau pour aller chercher celle qui s'était perdue afin de la ramener. Ça, c'est un mot important, ramener. Afin de la ramener. C'est ce qu'il nous dit dans Jacques 5, 19 et qui nous pousse à être attentifs à ce que vivent tous ceux qui se disent nos frères et sœurs. Quand quelqu'un se dit notre frère et sœur, on a une attention à avoir pour toutes ces personnes. Celui qui est dans la foi ne va pas réagir comme Caïn. Vous vous souvenez de Caïn dans Genèse ? L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Combien souvent par paresse, ou par incompréhension des liens qui nous lient, ou par peur, ou par conformité au monde qui dit que la foi est une affaire strictement privée, nous donnons la réponse coupable et mauvaise de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère ? Tous les textes, les uns les autres du Nouveau Testament, vous les avez même à droite devant vous ici, hein, tous ces textes-là, en fait, nous indiquent que cette phrase ne fait pas partie du langage d'un chrétien. Suis-je le gardien de mon frère ? À commencer d'ailleurs par le commandement que Jésus a donné, que Jean reprend dans 1 Jean, et il fait le lien avec Caïn, d'ailleurs vous le verrez, 1 Jean 3, verset 11. « Voici le message que vous avez entendu dès le commencement, aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin, et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et celles de son frère était juste. » En fait, quand Jésus demande de nous aimer les uns les autres, il englobe tous ces textes les uns les autres que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Et c'est certainement le cas aussi lorsque quelqu'un s'éloigne de la vérité. Jacques est également un artisan de paix. On l'a vu dans Jacques 3, 18, d'ailleurs, il parle de cette sagesse d'en haut qui nous amène à être des artisans de paix. Et il pratique en fait le R3. Bon, alors ceux qui ont entendu l'enseignement sur l'artisan de paix, ça vous dit quelque chose. Pour les autres, je vais quand même vous dire de quoi il s'agit. Le R3, c'est redresser avec douceur. Quand quelqu'un est trouvé en faute, eh bien, on va le redresser avec un esprit de douceur. Il partage l'évangile, la bonne nouvelle du pardon de celui qui pêche. On le voit, les versets 19 et 20, il est déjà en train de voir le salut, de voir des péchés couverts. Et ça nous rappelle ce Galates 6.1, hein, dans l'artisan de paix, c'est le texte qu'on a pris. On aurait pu aussi prendre Jacques ici. Hein. Galates 6.1, vous vous souvenez, hein, frère? Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, reprenez-le ou redressez-le avec un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc le but de dire à quelqu'un qui s'est égaré, et ça dans toute la parole, n'est jamais pour l'enfoncer. Si vous avez l'idée d'enfoncer quelqu'un en lui disant ce qu'il a fait de mal, vous n'êtes plus selon la parole de Dieu. Il faut faire attention, pourtant c'est important de le faire, la parole le fait, elle nous le dit. Mais quand elle déclare à quelqu'un qu'il s'est égaré, c'est pour lui montrer un autre chemin et être ramené. Ça c'est un élément important, c'est toujours pour faire bénéficier de l'évangile. Je ne vais pas te montrer ta faute pour te dire comme tu es mauvais. Je vais te montrer ta faute pour te dire Christ est mort, pour cela tu peux en être libéré. Et que Dieu nous aide, que Dieu m'aide à vivre cela. On a encore tellement de réflexes de plutôt justifier ou enfoncer. Jacques est un berger, Jacques est un artisan de paix, Jacques est aussi un jardinier qui est conscient que le champ de l'église visible est formé de plantes qui poussent sur trois sols différents. Jacques est aussi un jardinier qui est conscient que le champ de l'église visible est formé de plantes qui poussent sur trois sols différents. En fait, il connaît la parabole du semeur de son demi-frère Jésus. Vous vous souvenez qu'il y avait le terrain de la route. Là, il n'y a rien qui pousse. C'est pour ça qu'il n'y a que trois terrains dans l'église. Hein. Donc, il tombait dans, était mangé par les oiseaux. Il n'y a même pas de plantes, donc pas de présence dans l'église, qui fait penser que quelqu'un est chrétien. Ensuite, le sol rocailleux, qui donne une plante, mais sans fruit. Personne ne se dit chrétienne, même très joyeuse, mais qui, sur la durée, ne tiendra pas. Et puis, il y a le sol rempli d'épines, qui donne une plante, donc une personne qui se dit chrétienne, peut être dans l'église, mais sans fruit, laissant les intérêts du monde prendre le dessus. Et il y a le terrain fertile avec les plantes qui portent du fruit. Cela signifie que des personnes qui se disent chrétiennes, donc frères et sœurs dans la foi, vivant dans l'église, mais n'étant pas dans la bonne terre, ne sont pas des croyants authentiques. Cela signifie que des personnes qui se disent chrétiennes, donc frères et sœurs, dans la foi, qui vivent dans l'Église, mais n'étant pas dans la bonne terre, ne sont pas des croyants authentiques. Ils sont appelés frères, mais ils vont s'éloigner de la foi. Ils vont s'égarer loin de la vérité. Et c'est aussi d'eux que Jacques parle ici, tout en disant qu'il élargira sa pensée au verset suivant. J'ai déjà dit, hein, Jacques, il fait par... ricochet de pensée. Verset 19, il pense aux frères, ah oui, il faut en prendre soin. Puis après, il dit, ah oui, quand on va prendre quelqu'un qui est dans le péché, ben voilà, s'il y a un pécheur, puis là, fou, ça s'agrandit encore. Ok ? Donc ça, c'est l'égarement. Et Jacques a écrit toute une lettre pour prendre soin de ses frères et sœurs dans la foi, afin de leur rappeler la voie de la vérité. Voilà la vérité. Serions-nous moins zélés que lui en ne nous intéressant pas à la situation de nos frères et sœurs dans l'Église? On dit ça, c'était son boulot, mais nous, maintenant, c'est fini. Vraiment? Mais pourquoi nous y intéresser? Comment procéder? C'est l'objet de notre deuxième point. On continue dans le texte. Hein. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Si on s'arrête à « sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré hein, », c'est ça, c'est l'élément qui nous intéresse maintenant ici. « Ramener à la vérité dans la foi ». Dans une famille qui s'aime, s'il y a le désir du bien de chacun, si quelqu'un est en train de marcher et qu'il va entrer dans un champ d'épines ou d'orties, on le laisse faire et on regarde. Mais non, évidemment pas. Vous allez le voir, qui prend cette direction, on va dire « stop, arrête-toi, tu vas te faire du mal. » Lorsque Jacques parle de ramener celui qui s'est égaré, il ne se trompe pas de langage. Ce n'est pas pour laisser la personne dans son champ d'épines ou simplement de l'informer « tu es dans un champ d'épines ». Non, c'est pour l'en sortir. que les démarches sont faites. La motivation est de ramener à la vérité. Et nous allons voir quelques moyens que l'on peut utiliser, mais il ne faut jamais oublier qu'il est impossible de changer le cœur. Ce n'est pas nous qui changeons le cœur. Ça, ce n'est pas notre travail. Par contre, nous pouvons diriger vers celui qui change le cœur. Ça, c'est notre travail. Et donc, nous allons rechercher ceux qui sont dans ces situations-là. Nous allons leur manifester de l'amour, leur manifester enfin, différents éléments qu'on va voir maintenant, tout en ayant cette notion que de cette prière à Dieu agit dans le cœur. Et quand Dieu agit dans le cœur et donne une foi vivante, eh bien, c'est une foi qui n'est pas muette. C'est une foi qui s'exprime, comme Jacques écrit cette lettre et comme nous sommes appelés aussi à parler à nos frères et sœurs. Et voici quelques attitudes que nous pourrons utiliser pour ramener à la vérité. La première, je pense qu'on l'a compris, c'est en lien avec le commandement que Jésus a donné qui différencie le chrétien du monde, c'est l'amour. C'est l'élément fondamental. C'est l'attitude de base que Jésus-Christ vivra toujours avec nous. Lorsque nous nous égarons, hein, même en tant que chrétien, on peut s'égarer parfois dans des péchés, et ça fait aussi partie du texte, eh bien Jésus va toujours nous reprendre avec amour. Un accueil rempli de grâce, mais sans édulcorer la vérité. Donc rempli de grâce, mais sans édulcorer la vérité. Oui, tu as péché, c'est grave. Mais c'est pas grave, faut arrêter. Si quelqu'un dit « je te demande pardon, t'avoir menti », il ne faut pas dire « c'est pas grave ». C'est grave. Mais Christ est mort pour cela et c'est pardonné. Vous voyez, c'est la grâce. Donc oui, tu as péché, c'est grave, tellement grave que Jésus a donné sa vie pour t'en délivrer. Il l'a fait pour moi également et également pour toi si tu reconnais ta faute et saisis par la foi ce qu'il a fait pour toi. Voilà l'amour. L'amour ne dit pas « il n'y a rien », mais l'amour dit « je suis dans la même situation que toi dans ma vie, j'ai aussi besoin de Jésus-Christ. Si je te parle de cette situation, puisque voilà, si quelqu'un s'éloigne, on va lui parler, eh bien c'est pour que tu puisses revenir à Christ, comme moi j'ai besoin de toujours y revenir. L'amour est donc le premier moyen. Et si on n'a pas cette notion d'amour pour aller dire à quelqu'un qui s'éloigne, il faut d'abord travailler son amour en fait. Désirer le bien de l'autre, avoir réellement de l'amour pour l'autre, ça c'est important. D'ailleurs, il est dit dans le proverbe 10-12, hein, la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Deuxième trait caractéristique, c'est l'humilité. L'humilité qui est une attitude qui ne regarde pas l'autre de haut, mais qui a conscience dans ses propres faiblesses. Si vous êtes égaré dans un péché quelconque et quelqu'un vient en maître vous dire quelque chose, vous n'aurez pas tout à fait la même façon de recevoir cela que si la personne vient humblement en disant « c'est quelque chose qui n'est pas évident », ou bien même que j'ai vécu, qui n'est pas facile, mais j'aimerais t'en parler pour que tu puisses aussi revenir à Christ. Cette notion d'humilité qui ne regarde pas de haut hein, et qui est conscient de sa propre faiblesse, de son besoin de l'œuvre de Dieu. Et je pense que ceux qui sont le plus conscients du besoin de grâce sont ceux qui vont le plus aussi parler et donner la grâce. Et là, ben, vous rappelez dans Galates 6, 1, on en a parlé avant avec ce R3, hein, « Prends garde à toi-même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. » Même si quelqu'un fait quelque chose d'assez qui vous paraît énorme, jamais se sentir supérieur. On pourrait faire la même erreur. Si Dieu ne nous gardait pas, on pourrait faire les pires choses. Hein. Troisièmement, la prière. La prière est une façon de vivre que Jacques vient de souligner fortement. On en a parlé toute la dernière prédication, donc je ne vais pas le développer ici, mais c'est un élément fondamental, je ne vais pas ne pas le nommer. Il est important, la prière. Hein? Ensuite, point suivant, la confrontation. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses, qui est basée sur l'amour, l'humilité, baignée dans la prière. Paul encouragera d'ailleurs à faire cela aussi, à ne pas laisser le temps passer. Des fois, on dit rien, on laisse le temps passer, puis comme par magie, ça va se régler. Non, ça ne marche pas comme ça. Les choses doivent être dites. Et parfois, ce n'est que lorsque l'on me dit, par exemple, même à moi, hein, enfin même à moi, peut-être surtout à moi, que j'ai commis un péché ou une situation particulière qui n'était pas juste, eh bien c'est là que d'un coup je me rends compte. Je ne me rendais même pas compte avant. Parce qu'en fait, j'ai un énorme bureau d'avocat dans ma vie, hein, à l'intérieur là, qui sort toujours l'auto-justification. Mais si quelqu'un, par amour, vient me dire, ben voilà, là, il y a quelque chose que tu as fait faux, ça va m'aider à dire, mais ce bureau d'avocat, il faut fermer, hein, hein. C'est la faute. Et comment est-ce qu'on gère cette situation? C'est auprès de Christ. C'est lui qui prend. Il n'y a pas de problème à être trop humble. Ça n'existe pas, être trop humble par rapport à son péché. Ça n'existe pas. On va vers le Seigneur, c'est lui qui prend cela. Donc dans 2 Thessaloniciens 3, 15, Paul le dit clairement, hein, ne considérez pas les frères comme des ennemis, mais avertissez-les comme des frères. Et puis dernier élément, donc on a vu l'amour, l'humilité, la prière, la confrontation, et dernier élément, la discipline en fait. Ça fait partie, hein, de, si quelqu'un s'éloigne, eh bien ça fait partie de la discipline, qui est vécue dans l'amour, dans l'intégrité, dans la prière, dans la confrontation. Et d'ailleurs, quand on vit l'amour, quand on vit la confrontation, toutes ces choses, on est déjà dans la discipline exhortative, en fait. On le fait continuellement. On se veut du bien les uns les autres. Et on est content que l'autre nous veuille du bien et nous ouvre les yeux sur les choses qu'on ne voit pas. OK ? Et puis après, évidemment, c'est le texte qui est donné dans Matthieu 18, hein, 15 à 17, qu'il s'agit de suivre, tout simplement, assez clairement. On l'a lu tout à l'heure, hein, si ton frère a péché, va, reprends-le. Seul à seul. On ne va pas faire un article dans le monde entier pour une... Non, seul à seul. S'il se repent, c'est réglé. Il n'y a pas besoin de refaire une histoire. Hein? Et ensuite, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi deux ou trois personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. Les témoins sont là plutôt pour encourager à la repentance et non pas pour commencer à faire des racontars, hein? Ça, c'est un élément important. Si la personne, tout à coup, se rend compte, il n'y a pas qu'une personne qui pense ça, il y en a plusieurs, qu'il se repent, gloire à Dieu, c'est réglé. Et si la personne ne le veut pas, si elle refuse, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Et vous savez quoi, un païen, un péager, il a besoin de l'Évangile. Il a besoin d'entendre l'Évangile pour être sauvé. Ce n'est pas un rejet qu'on ne le veut plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est Jésus qui dit ça. Et Jésus, il était souvent avec qui? Avec les païens et les péagers. Donc ce n'était pas une notion de rejet. Hein, pour ceux de l'époque, les pharisiens, c'est pour eux c'était une notion de rejet. Mais pas pour Jésus. C'est une notion où on annonçait l'évangile pour qu'ils se repentent. Donc la discipline permettra ainsi à celui qui se croit être un frère dans l'Église de comprendre s'il refuse d'écouter et de se repentir dans toutes ces étapes, s'il reste complètement fermé à tout cela, qu'il n'est en fait pas un frère, mais simplement un pécheur qui a besoin d'être sauvé et qui est sur la route de la peine éternelle s'il ne se détourne pas de ses péchés. Peut-être avez-vous entendu de cet homme qui a beaucoup prêché devant des milliers de personnes, Billy Graham. On peut dire toutes sortes de choses sur lui, mais je vais vous donner une citation qui est intéressante par rapport à cette notion du chrétien authentique. Voici ce qu'il dit. Aucun homme ne peut être considéré comme véritablement converti au Christ s'il n'a pas plié sa volonté au Christ. Il peut donner un assentiment intellectuel aux affirmations de Christ, avoir eu des expériences religieuses émotionnelles, mais il n'est pas vraiment converti tant qu'il n'a pas abandonné sa volonté au Christ en tant que Seigneur, Sauveur et Maître. Fin de citation. Et cela va se voir dans la vie pratique de tous les jours, comme Jacques le dit dans toute son épître. Il a bien dit, hein, il y a une foi qui est morte, qui ne sauve pas, et il y a une foi qui est vivante, qui sauve. Et ça, on en a déjà parlé. Donc voilà pour cette deuxième partie, ramener à la vérité dans la foi. Donc le désir, c'est de ramener à cette vérité où la foi, elle transforme. On ne peut pas simplement dire on est chrétien et ne pas vivre d'une manière qui manifeste l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas possible. Alors nous cherchons bien entendu le progrès dans la foi et la sanctification de nos frères et sœurs en Christ. Donc quand je dis frères, parfois seulement, c'est aussi les sœurs. Hein, je ne vais pas vous faire la théorie maintenant. Donc ça me semble important de quand même le comprendre. Et nous sommes reconnaissants du salut en Christ qui sauve nos âmes de la mort. Et c'est justement notre motivation première lorsque nous cherchons à ramener un pécheur de la voie où il s'est égaré. Et nous allons parler du résultat ici dans ce prochain point. Sauver et couvrir par la foi. Les derniers mots de la lettre de Jacques, c'est « Il sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés ». Ça, c'est les derniers mots. C'est de l'espérance, c'est de l'espoir. C'est en fait un chemin que Jacques nous donne ici. Quelqu'un a dit d'ailleurs, sauver quelqu'un de la mort spirituelle est la plus grande chose qu'un homme puisse faire pour son prochain. Bon, on va essayer de comme bien la comprendre cette phrase, mais c'est un élément important. Ce désir de salut, sauver quelqu'un de la mort spirituelle est la plus grande chose qu'un homme puisse faire pour son prochain. Et c'est ce qui a motivé Jacques à écrire sa lettre. Et c'est ce qui nous motive à annoncer l'Évangile, premièrement dans l'Église et ensuite jusqu'au bout du monde. Alors il est clair que nous ne pouvons pas sauver nous-mêmes la personne, évidemment. Nous-mêmes n'avons ni les moyens, ni la capacité, ni la capacité de toucher le cœur ou de payer le prix. C'est pourquoi nous ramenons, c'est une sorte de ramener, vers celui qui sauve. Nous ramenons vers celui qui sauve. C'est la raison du titre de ce dernier point où j'ai dit « sauver et couvrir par la foi ». Nous amenons vers celui qui sauve par la foi. Et Jacques termine cette lettre par une note très positive. Il croit que détourner une âme de la mort est possible et qu'une multitude de péchés peut être couvert. Est-ce que vous croyez cela? Alors, je ne sais pas si vous avez bien saisi ce que je viens de dire. Est-ce que Dieu sauve encore des âmes de la mort? Est-ce qu'il le fait vraiment? Alors, si nous croyons cela, qu'est-ce que cela devrait... Quel devrait être le résultat dans nos vies? J'aimerais que nous ne croyions pas simplement des choses, mais que cela ait un impact dans notre vie. Si nous croyons cela, je pense que ce n'est pas possible de ne pas vouloir en parler. Si nous croyons cela, nous avons le désir de transmettre cette nouvelle. Ça, pour moi, c'est fondamental. Si on n'a pas ce désir, il y a un souci. C'est qu'on n'a pas compris, en fait. Des fois, on ne sait pas encore comment faire. Ça, c'est des étapes suivantes. Mais si on n'a pas cet élément-là, ce désir, que se passe-t-il? Avons-nous vraiment compris ce que cela signifie? Dieu peut encore sauver des âmes aujourd'hui. J'aurais pu prendre cela encore un peu avant. Mais nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous. S'il peut le faire pour les autres, il peut le faire pour nous également. Dieu sauve encore aujourd'hui des âmes de la mort et couvre une multitude de péchés. Et troisièmement, nous avons de l'espoir pour toute situation. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir que la personne puisse se tourner vers Christ. C'est toujours. Ça, c'est dans notre cœur. Tant qu'il y a de la vie, une personne qui est décédée, c'est fini. Mais tant qu'il y a la vie, nous avons cet espoir de pouvoir amener l'Évangile. Dieu peut sauver cette personne jusqu'au dernier moment. C'est vrai que tout homme, depuis la chute, est sous le jugement de Dieu. Tout homme, il naît pécheur. Et comme le péché fait partie de sa nature, il va pécher. Et ainsi, il va même mériter aussi personnellement la mort. Donc, la mort n'est pas juste que tout s'arrête. C'est une fois un collègue qui m'a dit, ça ne me dérange pas, je meurs, puis c'est fini. Non, si on veut expliquer la chose, c'est une mort continuelle, si vous voulez. Une mort qui ne s'arrête pas. Pour l'éternité, la souffrance dans l'étang de feu décrit dans Apocalypse 20, 10, c'est ça la mort dont il est question. Alors que lorsque quelqu'un est sauvé, se convertit, est transformé, réconcilié avec Dieu, tous ses péchés sont couverts par le sang de Christ. Tous ses péchés. Ça, c'est un élément quand même fantastique. Il y a des mots qui sont géniaux. Tout. Il est bien ce petit mot. Tous ses péchés. Il n'y a pas une exception, comme dans la langue française avec plein d'exceptions, comme on l'a vu vendredi. Pas d'exception. Tous sont couverts par le sang de Christ. Ils sont payés, expiés, effacés, écartés, comme jetés au fond de la mer. Mais quelle joie de conduire quelqu'un vers Christ afin que ses péchés soient couverts. Oui, pour nous-mêmes, bien sûr, c'est absolument génial et c'est très bien. On veut être reconnaissant. Mais pourquoi ne pas avoir la même joie de voir d'autres personnes où tous leurs péchés sont couverts? D'autre part, donc ça c'est une part des péchés couverts quand on vient à Christ. Et d'autre part, celui qui est en Christ va s'efforcer avec l'aide de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit de vivre en dehors du péché. C'est vrai, je dois vous avouer, je pense que tous ceux ici qui progressent dans leur foi vont dire avec moi, j'ai l'impression que c'est toujours pire. Parce qu'en fait, plus on grandit dans la foi, puis plus Dieu nous montre des choses qu'on ne voyait pas avant. Mais j'aimerais quand même nous encourager. C'est que nous péchons quand même moins. Parce que Dieu, dans sa grâce, nous fait progresser. Il nous fait voir d'une manière plus claire les péchés. Donc c'est pour ça qu'ils ont l'impression d'être encore plus grands, qu'il y en a encore un peu plus. Mais en réalité, il nous fait aussi progresser. Et il y a des choses, par sa grâce, que nous faisons moins. Ou qu'en fait, nous ne sommes pas tranquilles quand nous faisons. Parce qu'un chrétien ne peut pas être tranquille en péchant. Il va se repentir. Et ça, c'est une grâce. Et les péchés seront couverts. Et donc, nous sommes appelés à partager cela. Moi, j'aime bien ce que Dieu a dit à Paul. Dieu a envoyé à Paul avec ces mots. Regardez avec moi dans Actes, on va aller dans Actes 26. C'est Paul qui donne son témoignage. Puis nous, on a aussi des fois appelé de donner notre témoignage. Hein. Et puis là, lui, il dit ceci, c'est comment Dieu l'a appelé. Hein. Acte 26, verset 17. Où il dit « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Jacques lui dit « Sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Nous sommes appelés à vivre cela aussi. Dans Jacques, il n'y a pas Paul, Jacques ou les anciens, c'est ceux qui sont en Christ. Donc réjouissons-nous d'être des témoins de l'Éternel, de ramener des personnes à Dieu. Réjouissons-nous d'avoir une référence qui nous permet de connaître la vérité, donc de ramener vers la vérité. Ramener la vérité, ce n'est pas ramener vers nous, hein, c'est ramener vers Christ. Et soyons reconnaissants pour ce livre de Jacques, qui, s'il a commencé par l'épreuve de la foi, se termine par la foi en action pour le salut des autres. Donc, dans les prédications, nous allons gentiment fermer ce livre de Jacques. Qu'allez-vous retenir de ce livre ? Alors, j'espère que vous l'avez lu avant ce dimanche, comme je l'avais encouragé, hein, comme ça vous aviez un petit peu tout le contexte. Mais qu'allez-vous retenir ? Qu'est-ce qui a travaillé votre cœur ? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Parce que si on lit la parole et qu'il n'y a jamais rien qui change, là aussi, c'est un peu étonnant. Alors, je ne parle pas de changement absolument extraordinaire, je parle d'étapes dans nos vies. Et il y a des choses qui nous marquent. Comment ce livre vous a-t-il nourri ? Comment vous a-t-il réjoui ? Alors, je ne peux pas venir vous demander à chacun maintenant, mais je vous encourage vraiment tout à l'heure, au petit moment de café et tout, mais partagez tout ce que vous avez pu apprendre, comprendre dans ce livre de Jacques. Pour ma part, juste un élément que j'ai trouvé très fort et qui m'a beaucoup encouragé, stimulé, qui le continue encore, c'est évidemment cette notion de foi, comme Jacques l'a décrit, cette foi en Christ, cette proximité en fait en Christ, qui en fait va me permettre de vivre une vie qui est plus proche de lui, qui me permet de prendre l'artillerie, on avait parlé de l'artillerie de la foi, hein, quand toutes ces choses qu'on a vues ensemble. Et donc cette proximité, cette foi en Christ, c'est vraiment ma prière, qu'elle grandisse dans mon cœur, que mon appartenance et ma proximité de Christ grandisse encore pour vivre en fait ce que Jacques nous enseigne. Et c'est ce que je souhaite aussi pour vous et tout ce qui vous a touché par l'œuvre de son esprit, puisque son esprit en fait touche nos cœurs comme il le veut, pas comme je veux. Heureusement, nous allons prier. Éternel, nous te remercions parce que tu es un Dieu qui est puissant, plein de grâce, d'amour et de bonté et de bienveillance. Et nous voyons Jacques qui a écrit toute une lettre pour parler de la foi, des épreuves, de la manière de gérer sa langue, de toutes sortes de choses qui sont tellement importantes et fortes. Et il termine par une espérance extraordinaire. Si tout à coup quelqu'un s'égare, il nous a placés dans un corps avec d'autres qui veillent les uns sur les autres. Nous ne sommes pas seuls. Je n'ai pas besoin d'avoir peur que si je vais sur un faux chemin, personne ne me dise rien. Quelle grâce, Seigneur. J'aimerais te dire merci. Merci aussi parce que tu donnes la grâce de permettre de donner des éléments pour que celui qui se dit être un frère, qui s'égare ensuite puisse comprendre que ce n'était pas la foi en Christ, mais c'était peut-être une façon sociale d'être, ou peut-être une façon qui permettait d'avoir certains avantages, ou qui faisait partie de ce qu'il faut faire pour être heureux, qu'on dit. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de joie. Oh Seigneur, j'aimerais te prier que pour ceux qui s'égarent de cette manière, qu'ils soient aussi touchés et saisis, aussi parmi nous. Et qu'ils puissent dire non, en fait. Christ agit dans mon cœur, je me rends compte que je suis un pécheur, que je m'attache à d'autres choses que la parole, à d'autres choses que Christ, que je ne peux pas faire autrement que de faire certaines choses, alors que c'est Christ qui est ma vie, mais en fait, je ne le crois pas. Oh, je te prie, Seigneur, que par ton esprit, il puisse y avoir un changement, et qu'il y ait ce désir, non plus de vivre d'une manière qui plaît à ceux qui sont autour de nous, mais que nous ayons tous un zèle à parler de Jésus-Christ qui transforme encore des vies, parce que nous croyons que Dieu sauve encore des âmes de la mort et qu'il couvre une multitude de péchés. Et nous voulons te louer parce que, Père, nous le croyons et nous désirons encore avoir plus de témoignages autour de nous qui le disent et nous te prions de nous donner du zèle à être ces évangélistes qui parlent de toi autour de nous, non pas parce que nous avons des capacités particulières, mais parce que nous parlons simplement de ce que tu fais dans nos vies. Ô Seigneur, agis par ta grâce et donne-nous des yeux pour voir ton œuvre, et des bouches pour parler, et des oreilles pour entendre. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.